Merci Christian et merci aux autres organisateurs du séminaire de l'invitation. Très brève présentation, juste pour que vous ne me preniez pas pour un intellectuel. Ce qui n'est justement parce que je le dis parce que comme c'est pas une tare chez vous, je voudrais pas usurper la fonction. Non, effectivement, j'ai des travaux intellectuels, mais ils prennent fond sur des activités. Ces activités sont à la fois des activités d'innovation technique et je dirige une société qui produit des logiciels libres dans un champ particulier qui est la coopération interindividuelle et les processus démocratiques. Donc, et d'autre part, je suis un activiste des libertés numériques et des droits à l'égard des communs. Donc, je suis un des fondateurs de la Quadrature du Net, un collectif citoyen qui joue là-dessus. Ce qui fait que, après être, disons, vous aider à l'exploration dans l'exposé, je serai un objet d'étude dans la deuxième partie. Alors, j'ai choisi de placer mon exposé en l'introduisant par un extrait d'un débat assez passionnant qui a eu lieu au tout début des années 70 entre Noam Chomsky et Michel Foucault. Alors, c'était un débat qui était organisé par des Belges, mais le débat avait lieu à Eindhoven, la ville de Philips, ou même le club de foot porte les couleurs de Philips, mais qui a une école d'ingénieurs, et c'était un débat pour les étudiants de cette école d'ingénieurs. Et son titre, c'était « De la nature humaine, justice versus pouvoir ». Et je vais vous lire un petit extrait d'une des interventions de Chomsky dans ce débat. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Chomsky est à la fois un théoricien des langages et des langages formels, qui est un des fondateurs de la discipline informatique. Donc, sur ces bancs, j'ai étudié ces théories des langages. Mais c'est aussi, évidemment, il est surtout connu à la fois comme théoricien de l'apprentissage des langages et comme activiste politique. Et c'était en tant qu'activiste politique libertaire qu'on l'avait réuni avec Michel Foucault. Et voici ce qu'il disait. Un système fédéré, décentralisé de libre association, incorporant des institutions économiques et sociales, me paraît être la forme appropriée d'organisation sociale pour une société technologiquement avancée. Aucune nécessité sociale n'exige plus que les êtres humains soient traités comme les maillons de la chaîne de production. Nous devons vaincre cela par une société de liberté et de libre association où la pulsion créatrice inhérente de la nature humaine pourra se réaliser pleinement de la façon qu'elle le décidera. Alors, à l'époque, évidemment, il faut entendre ce que Foucault répondait, qui était lui un jeune chercheur, hein, alors, à l'époque, Chomsky passa vraiment pour un naïf d'avoir exprimé ce genre de point de vue, d'abord parce que il croyait qu'il y avait une nature humaine, enfin, où il le laissait penser. En plus, il avait une vision positive de cette nature humaine sous la forme de la pulsion créatrice, donc il croyait qu'on pouvait bâtir positivement du politique sur la base de la conjonction de cette nature humaine et de la technologie. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'était extrêmement novateur d'avoir un point de vue positif sur la capacitation, la possibilité pour les êtres humains de construire du politique à partir de la technologie. Hein. Le discours dominant sur la technologie de l'époque, c'est celui d'Ellul, d'Illich. Illich a une vision un peu plus compliquée, mais Ellul était vraiment dans une posture de critique institutionnelle de la production de la technique. Et se l'approprier comme ça, comme fondement d'une politique, c'est extrêmement nouveau. Alors aujourd'hui, il me semble qu'en fait, ce qu'exprime Chomsky, et notamment sa référence à la fois à la capacitation des êtres humains, à leur fédération à travers des associations librement constituées, et à l'existence d'institutions économiques et sociales permettant le fonctionnement de ce système, c'est plus ou moins ce qui réunit l'essentiel des défenseurs, promoteurs des communs, et notamment des communs qui se construisent autour de la technologie. Au-delà ensuite de différences d'attitude ou de point de vue sur la façon de faire exister ces communs, que ce soit politiquement ou économiquement. Alors je vais, comme l'a expliqué Christian Laval, aborder deux types de défis pour la soutenabilité et l'extension. Parce qu'on dit soutenabilité, on peut penser simplement à un régime de croisière, mais le propre des communs de l'information et des connaissances, c'est qu'ils sont en permanente extension, et que donc le problème de la soutenabilité de cette extension se pose. Le premier défi, il est d'ordre interne, il est d'ordre de comment on s'organise pour produire du commun, comment on gouverne la production des communs, que ce soit des logiciels libres, une encyclopédie libre, des publications scientifiques, du savoir partagé dans un champ scientifique. C'est la question qui a surtout été discutée en tant que question de la gouvernance des communs. Le deuxième, c'est celui de l'articulation des communs avec l'économie monétaire, et c'est sans doute cette question qui ouvrira le plus à du débat, parce qu'il y a des points de vue assez contrastés sur la bonne façon d'articuler les communs avec l'économie, ou de ne pas le faire. Alors, commençons par le plus facile. Donc le concept qui est dans mon titre de production par les pairs, sur la base des biens communs. Donc, ça, l'idée, c'est que on a des acteurs qui sont des pairs PAIRS, au sens où, malgré leurs différences éventuelles de statut, ils ont une égale légitimité dans un processus. Et ça peut être des individus, disons même le fondement de la notion, c'est l'individu, mais ça peut aussi être des organisations. Et ces pairs regroupent, que ce soit explicitement ou implicitement, pour participer à la production de quelque chose, par exemple un écosystème de logiciels, une encyclopédie libre, et décident que tous les produits intermédiaires seront des biens communs, seront librement accessibles, utilisables, modifiables, réutilisables. Et donc, ce que Jochai Benkler, dans un article qui s'appelle Le pingouin de Coase. Alors Coase, c'est un économiste qui a étudié les coûts de transaction et les effets de réseau. Le pingouin, c'est pour Linux. Donc la suite du titre, c'est où Linux et la nature de l'entreprise. La nature de l'entreprise, c'est un des grands ouvrages de Coase. Et dans cet article, il a défini cette notion et il a dit attention. C'est pas seulement une petite niche, c'est un nouveau mode de production. Alors le terme de mode de production est un terme marxiste, et donc il est assez étonnant de le trouver sous la plume de Jochai Benkler, qui est un libéral politique à la Stuart Mill. Il affirme ça, il dit c'est un nouveau mode de production, et dans son champ propre qui est de production d'informations ou de choses qu'on peut représenter par les informations, il est supérieur au mode de production du marché et des contrats ou à ceux de la coordination interne aux grandes organisations, que ce soit des entreprises ou des administrations. Alors, quand les gens ont commencé à voir comment ça marchait, ce qui s'est passé, disons, quand c'est arrivé sur le radar à la fin des années 90, les études sur la gouvernance et la soutenabilité des projets se sont intéressées aux projets individuels de logiciels libres. Et pour pouvoir étudier un projet du point de vue de la gouvernance, il fallait qu'il soit gros. Donc on a étudié des gros projets, le noyau Linux, donc le cœur du système d'exploitation Linux, le serveur web Apache plus tard Wikipédia comme encyclopédie libre. Et cette focalisation a entraîné une certaine erreur de perspective parce que on a considéré que ce qui était important, c'était comment on coopérait dans un projet. Hein. Alors que, en réalité, dans la plupart des cas, il n'y a pas de coopération dans un projet, ne serait-ce que parce que 80% des projets de logiciels libres n'ont qu'un développeur. En fait, l'essentiel du travail coopératif, de l'interdépendance, des négociations, se passe au niveau de l'ensemble de l'écosystème de logiciels. Dans Wikipédia, il y a une gouvernance de l'encyclopédie, mais l'encyclopédie, c'est un ensemble d'articles, et au niveau de chaque article, on retrouve un processus où, certes, il y a des mécanismes de gouvernance, mais en pratique, il y a en général un contributeur principal, deux, trois peut-être contributeurs annexes, et puis des gens qui, en passant sur l'article, vont ajouter une référence, corriger une faute de frappe, mais il n'y a pas du tout une masse de gens qui contribuent à un article individuel. Alors, c'est très largement un analyste américain qui s'appelle Schlesinger, qui c'est Schlesky, si vous voulez regarder, qui a inventé la notion de logiciel social bien avant qu'on parle des réseaux sociaux, qui a fait des analyses très profondes de notamment dans un article qui s'appelle Social Software and the Politics of Groups. Des mécanismes de gouvernance. Lui aussi, il était plutôt centré sur les projets individuels, mais à partir de ses travaux, moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'est-ce qu'il y avait de nouveau avec les communs de l'information. La chose que j'ai vraiment trouvée de nouvelle, c'est la disjonction entre les choix portant sur l'organisation et les droits et libertés et capacités des individus. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, contrairement à ce qu'a dit Eric Raymond, des projets qui sont coordonnés de façon complètement hiérarchique avec un dictateur bienveillant ou pas, ou avec un petit groupe cœur qui coopte les meilleurs de développeurs dans une méritocratie, éventuellement avec des pratiques de sélection qui ressemblent à l'élitisme républicain dans ce qu'il a de plus sévère, ou au contraire une approche beaucoup plus horizontale. Et c'est donc, ça fait que la production des communs de l'information, notamment dans le champ du logiciel, moins dans les champs des médias et des produits culturels, moins aussi dans la science, peut être une espèce de laboratoire des formes de gouvernance. Pourquoi ? Parce que l'individu ou le sous-groupe qui n'est pas content, il peut partir avec le projet. Ce qui fait avec l'état actuel du projet. Alors, ce n'est pas du tout une décision gratuite, hein, c'est une décision qui a un coût très fort, on rompt une communauté, on va devoir reconstruire toute une infrastructure de gouvernance de projet. Donc, ça se passe en fait assez rarement, mais par contre, cette possibilité est au cœur du fonctionnement de la gouvernance. Quelles sont les conditions nécessaires à la coopération informationnelle ? Il y en a de nombreuses. Il y a l'infrastructure technique des communs. Donc, il faut qu'il existe des dispositifs techniques ouverts où on a accès vraiment au fonctionnement. Quand Richard Stallman a commencé à développer des logiciels libres, il a commencé par faire un éditeur pour fabriquer un compilateur qui pourrait servir à écrire à traduire des programmes qui tourneraient sur une machine qui n'était pas encore là. Ça allait parce qu'il était vraiment très très motivé, mais la plupart des contributeurs n'accepterait pas ça. Il faut qu'il y ait une infrastructure qui soit déjà là. Et cette infrastructure est devenue elle-même un bien commun précieux et rare, hein, lui. Cette infrastructure, c'est celle de l'existence des dispositifs informatiques ouverts et celle d'un Internet neutre et équitable, un Internet où tous les contenus sont transmis et indépendamment de qui les produit ou de leur nature. Mais il y a d'autres conditions de soutenabilité de la production des communs qui sont d'une nature beaucoup plus sociale ou beaucoup plus politique. D'abord, y a des conditions qui sont de l'ordre des capacités et des savoir-faire sociaux des contributeurs. Et donc, je ne m'y étendrai pas. Les analyses de Milad Douéhi dans sa définition des cultures numériques et de l'humanisme numérique sont vraiment une référence clé pour ça, parce qu'il montre qu'il y a une civilité. Milad Douéhi est un grand défenseur de la civilité comme complément indispensable de la police, hein, avec une distinction entre la cité romaine et la cité grecque sur ce point de vue. Et c'est vraiment très important. Et il y a un rôle fondamental de l'éducation comme infrastructure pour produire ces capacités, mais aussi ces motivations. Sur le plan des capacités, l'éducation, on peut dire, a bien fonctionné. Sur le plan des motivations, on peut dire que une éducation à la française est extrêmement, disons, dissuasive de l'investissement dans la coopération et le travail collectif, ou en tout cas refuse de l'évaluer. Donc malgré ça, on peut dire la production française en matière de logiciels libres est importante. Et puis il y a une autre ressource, c'est le temps libre. Alors une des raisons de l'analyse des arguments avancés par Benkler pour expliquer pourquoi ce mode de production fonctionnait, c'était la possibilité pour les individus de contribuer par toute petite dose. C'est vrai, les études ont montré que les développeurs de logiciels libres, il y en a un grand nombre qui contribuent, et de façon non négligeable du point de vue des résultats, avec des investissements égaux ou inférieurs à une heure par semaine. Donc la possibilité de contribuer, disons, par un investissement mineur, un investissement relevant du temps libre, est réel. Ceci dit, ça se passe dans un système d'ensemble où il y a quelques contributeurs qui, eux, doivent passer un temps considérable, l'équivalent d'un temps plein ou plus, à faire marcher l'ensemble. Donc ces individus deviennent des ressources rares à l'intérieur de l'écosystème, et de nombreuses crises de la gouvernance individuelle proviennent du fait qu'ils soient à un moment plus disponibles, ou qu'ils aient autre chose à faire, ou qu'ils en aient marre. Et même quand le temps global est disponible et réparti sur un grand nombre de gens, nous avons des inégalités sociales majeures dans la disponibilité du temps, notamment entre genres, entre hommes et femmes, comme ça a été souligné dans les travaux de Dominique Méda et aussi de Roger Su. Ça se traduit également dans... Ce n'est pas l'unique facteur, mais ça se traduit fortement dans les contributions en pratique des catégories concernées. Alors, comme je vois le temps s'écouler, je passe rapidement, en vous renvoyant au texte pour des questions qui sont aussi des conditions importantes, notamment celle de la problématisation de la technologie par opposition à la recherche de la commodité immédiate, qui est un enjeu culturel, politique majeur de l'appropriation critique des technologies. Mais si je le développe maintenant, je ne couvrirai pas la deuxième partie, qui est celle de l'articulation entre commun et économie. Alors ça se discute à plusieurs niveaux, la soutenabilité économique des communs. Il y a la capacité des individus à y contribuer, ça rejoint la question du temps, évidemment, parce que une des raisons l'assignation permanente à la recherche de travail ou de tas d'autres mécanismes font que de grands segments de la population sont dans une quête impossible du temps, et que ceux qui auraient les moyens d'éviter cette quête sont en fait emprisonnés dans des modes de travail qui font qu'ils n'ont aussi pas beaucoup de temps libre. Donc on a vraiment une question de soutenabilité du temps. On a la capacité, et là j'en ai déjà parlé du point de vue de l'éducation des individus, et puis on a des questions qui relèvent de la soutenabilité de l'économie elle-même dans un monde où les communs sont étendus. Les infrastructures nécessaires aux communs, ils ont une caractéristique qui n'est pas tellement présente pour les réseaux physiques, c'est la capacité des individus ou de tout petit groupe à contribuer à leur existence. Pour l'énergie, ça existe un peu aussi, mais disons dans l'essentiel des autres infrastructures fondamentales, les individus sont essentiellement en position d'usager des infrastructures, ils construisent pas d'autoroutes, de lignes de train, dans le cas des infrastructures que sont les réseaux ou que sont les matériels ouverts. Si vous regardez des projets comme Arduino pour les matériels ouverts ou les réseaux mutualisés du Wi-Fi, il y a une possibilité de production des infrastructures par les individus, par les citoyens, et c'est traduit en réalité par certaines politiques. Le Parlement vient d'adopter aujourd'hui une directive ou une résolution sur le spectre ouvert où il encourage l'existence d'un spectre mutualisable entre individus pour les nouvelles générations de réseaux. Il y a des villes comme Turku en Finlande qui ont fait ce que Fon essayait de faire mais sans succès et que Free 9 ou SFR ou Orange font pour leurs propres abonnés, c'est-à-dire la mutualisation de points d'accès mais à l'échelle de tous les citoyens. Donc finalement la soutenabilité des infrastructures elle se heurte essentiellement à l'organisation de leur rareté. On peut pas dire qu'il y a un vrai défi de nature économique et sociale. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui détiennent des positions dominantes sur la provision de la fourniture de ces infrastructures et qui ont envie que ça dure. Par contre, comme ces opérateurs sont très puissants, il n'est pas exclu qu'ils obtiennent, effectivement, qu'on les autorise à conserver leurs avantages, y compris par des moyens. Et donc, il y a tout un travail sociétal qui se fait pour la construction d'alternatives, même dans le cas où il n'y aurait pas des politiques favorables. Je vous réfère au texte pour ces alternatives. Là où il y a peut-être le débat le plus important, c'est sur le plan de la capacité des individus à contribuer au commun et de l'impact des communs sur l'économie monétaire. Les individus n'ont pas seulement besoin de temps libre, ils ont aussi besoin de pouvoir construire des capacités accrues. Un des effets de la construction des communs de l'information et des connaissances, c'est que les objectifs deviennent de plus en plus ambitieux. Il y a de plus en plus de contributeurs qui ont atteint un certain niveau de capacité à contribuer et qui veulent aller plus loin, qui veulent acquérir de nouveaux savoirs. Donc, ils ont aussi besoin des ressources de l'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Non seulement le temps, mais la possibilité de prendre des cours. Pratiquement, on peut dire il y a des situations comme l'expression sur la chose publique, où au départ, on peut dire il y a des espèces de capacités déjà existantes qui vont pouvoir, pour une grande masse de gens, s'exprimer, notamment dans les révolutions démocratiques arabes, même si on voit que sur Internet, ce sont quand même des minorités qui se sont exprimées. Mais dans d'autres domaines, les capacités, quand il s'agit de produire du film qui ressemble à quelque chose, quand il s'agit de s'exprimer dans les nouveaux médias, quand il s'agit, y a vraiment des besoins d'acquisition de savoir-faire. Alors, la question, c'est sur quoi, comment solvabiliser ces pratiques. Il y a eu plus ou moins trois modèles qui se sont exprimés. Il y en a un qui est basé sur une sorte de présupposé, pas absurde, mais optimiste sur la relation entre les communs et l'économie. Hein, donc, il y aura une espèce de cirque vertueux où si on libère la capacité de produire des communs de la formation et de connaissances, bon, d'une part, il va y avoir des besoins accrus de fourniture d'infrastructures et ils seront solvabilisés par la demande de leurs usagers. Et puis, il va y avoir possibilité de construire de l'économie notamment par ce que Yann Moulier-Boutan et des tas d'autres appellent la capture des externalités positives. Donc, on va utiliser le savoir, les connaissances, les techniques produites dans les communs pour fournir de nouveaux types de services, et par là, on engrangera des bénéfices économiques. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, ça va être quel est le retour de ces bénéfices économiques sur la solvabilisation des communs eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, c'est pas tout qu'il y ait des gens qui puissent faire du fric sur la base des communs, mais est-ce que les communs eux-mêmes en profitent, hein. C'est pour ça que les plus sérieux des chercheurs qui adoptent le point de vue optimiste, notamment Yann Moulier-Boutan, disent il faut un mécanisme de retour et privilégie en général un grand mécanisme macroscopique qui est le revenu minimum d'existence ou le revenu minimum de citoyenneté ou le revenu de base ou tout ça a une 4 ou 5 noms et qui assurerait le fait que les individus allouent librement un temps libre qui leur serait garanti, soit gagner plus d'argent en faisant des activités économiques, soit contribuer au commun ou à d'autres activités sociales. Hein, donc, pour moi, et je suis le représentant d'une troisième école de pensée, cette solution magique se heurte à un certain nombre de difficultés. Alors, la première, d'abord, moi, j'ai une grande sympathie hein, pour cette solution, mais bon, ça fait 20 ans que j'ai commencé à suivre les travaux du Basic Income European Network, qui étudie ces possibilités, qui essaie de les peaufiner. Et bon, c'est pas qu'on n'ait pas progressé vers le revenu minimum d'existence, c'est on le fait clandestinement et mal. Hein. C'est-à-dire qu'il y a environ 35% des revenus des personnes qui sont des revenus de distribution. Donc, on a beaucoup progressé vers l'existence d'avoir des sources de revenus qui relèvent de la justice distributive. Sauf que de plus en plus, on associe à ces revenus des exigences qui tuent leurs bénéfices pour les communs, hein, c'est-à-dire la quête permanente de l'employabilité, du travail, des choses de ce genre. Donc, ça n'a pas l'air si simple à mettre en place, mais en dehors de ça, je trouve aussi que ça entre un peu en collision. C'est un modèle où les contributeurs sont purement individuels, où il n'y a pas d'organisme intermédiaire, il n'y a pas ces institutions économiques et sociales dont parlait Chomsky. Or, ces institutions, quand on les étudie, elles sont profondément diverses. On ne gouverne pas la science comme on gouverne un média d'information ou comme on gouverne la production d'œuvres d'art dans un regroupement d'artistes qui travaillent à un style. Les filtres dont on a besoin pour sélectionner ce qui a de la valeur ne sont pas les mêmes. Et du coup, il y a une valeur de modèle de mutualisation qui ne soit pas des modèles totalement généraux comme ça, toute la société finançant chacun de la même façon, mais qui soient des modèles spécialisés dans la production de communs particuliers, scientifiques, culturels et d'autres natures. Donc, moi, j'ai défendu en plus que l'avantage de ces approches de mutualisation spécialisée, c'est qu'elles permettent d'expérimenter et d'étudier empiriquement un certain nombre de conditions, y compris à des échelles qui soient pas forcément globales, hein, puisqu'il y a d'énormes problèmes de frontières pour le revenu minimum d'existence. Comme la demi-heure est passée, je m'arrête là. On y reviendra dans le débat.